Le CRIDAC, en balado-diffusion, présente la conférence « Le plan Nord et les Premières Nations », organisée par la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes et la Société Recherche amérindienne au Québec. Bonne écoute!
Naturellement, le plan Nord a permis à plusieurs personnes de s'exprimer récemment. Vous avez sûrement lu des commentaires ce matin de M. Parizeau, entre autres, qui exprime un inconfort qui est partagé par plusieurs Québécois. Il y a aussi, et je suspecte que c'est une des raisons pourquoi le ministre n'est pas là ce matin, il y a aussi une sortie qui a été annoncée publiquement de la part des Inuits de Pessamit. Raphaël Picard a annoncé le lancement d'une campagne internationale de dénonciation du plan Nord. Et naturellement, il y a là une confrontation qui s'annonce entre le gouvernement du Québec, d'une part, du moins le gouvernement de Jean Charest, d'une part, et d'autre part, les membres des Premières Nations sur les territoires du Québec. Donc, on peut présumer ou on peut s'attendre, il faudra voir ce que M. le ministre nous dira là-dessus, ce qu'il en est de ce côté. Naturellement, la chaire de recherche, elle a tenu plusieurs événements. On a reçu ici Ghislain Picard, on a reçu Jean-Guy White-Duck, Raphaël Picard lui-même, Mike McKenzie, l'ancien ministre Benoît Pelletier. Alors, je pense qu'il y a là un signe que la chaire est ouverte à des débats constructifs pour l'avenir des nations qui vivent sur le sol du Québec. Aujourd'hui, nous recevons... du côté des conférenciers, d'abord M. Christian Dubois. M. Dubois est secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, chargé du secrétariat aux affaires autochtones. C'est un politologue, alors il faudra voir si dans ses propos il nous parlera de rapports de force. Pour nous, les politologues, les rapports de force sont naturellement l'élément le plus important. Il a auparavant occupé des fonctions de sous-ministre associé au plan Nord et au territoire. De 2001 à 2009. Il était aussi secrétaire adjoint aux relations gouvernementales et à l'administration du secrétariat aux affaires autochtones. Et dans une vie antérieure, il a été très actif à l'OPDQ. Je dis ça parce que je me suis beaucoup intéressé au développement régional dans mes années antérieures. Il y aura aussi, il va être suivi par Armand McKenzie, qui est négociateur INU, avocat diplômé en droits internationaux de la personne de l'Université d'Ottawa. Depuis 1998, il est directeur exécutif du Conseil INU de Nitisimane et il fut de 1994 à 2004 conseiller juridique senior pour la nation INU. Donc, il pourra nous faire valoir son point de vue aussi sur la question du plan Nord. Et ils seront suivis de Hugo Asselin, qui est professeur au département des sciences du développement humain et social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il est aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada portant sur la foresterie autochtone. Naturellement, le plan Nord, c'est les mines, mais c'est aussi toute la question des ressources renouvelables sur ces espaces. Une fois que nos conférenciers auront fait leur intervention, ils ont 15 minutes pour présenter leur point de vue. Il y aura ce matin trois commentateurs. Pierre Trudel, de recherche amérindienne, qui est aussi professeur d'anthropologie au Cégep du Vieux-Montréal. Pierre est bien connu ici. Il travaille de différentes façons à la chaire de recherche. Et il est aussi l'auteur d'une série d'entretiens avec Ghislain Picard. Et l'ouvrage, d'ailleurs, est disponible à l'arrière pour ceux qui voudront le consulter et peut-être en faire l'acquisition. Pierre sera suivi de Catherine Lucier. Catherine est anthropologue de formation et puis elle est consultante auprès des communautés Cree de la baie James. Donc, elle est au front, elle est vraiment en première ligne. Ils seront accompagnés d'Alexandre Germain. Alexandre est doctorant en sciences politiques ici à l'UQAM. Il a une formation de géographe pour dire que la géographie peut conduire à bien des choses, dont la politologie. Alors, Alexandre s'intéresse au développement nordique et au fédéralisme canadien. Il viendra aussi faire ses commentaires. Les partenaires, j'ai mentionné Recherche amérindienne. Je dois aussi indiquer que Recherche amérindienne, cette année, souligne son 40e anniversaire d'existence. Ils sont autonomes. C'est une voix libre dans la société québécoise et on est très fiers de travailler avec eux. C'est un modèle, je pense, de rayonnement d'une approche éthique tout à fait impressionnante. C'est le principal partenaire d'aujourd'hui. Alors, donc, je vais inviter d'abord M. le sous-ministre à prendre la parole pour ces 15 minutes. Après, chacun des conférenciers va venir ici faire sa présentation et les commentateurs m'ont demandé de rester à leur endroit parce que c'est leur présentation un peu plus brève et ils pourront échanger aussi entre eux. Et je vais me diriger de l'arrière tout cela. Alors, Monsieur le sous-ministre.
Je suis audible? Pas vraiment? Oui? Bien, alors, oui, je m'appelle Christian Dubois et je pensais qu'on était pour dévoiler mon âge en parlant d'OPDQ. Quand même, ça remonte à pas mal d'années. Je voudrais d'abord, au nom de M. Kelly, vous témoigner la souffrance qu'il a eue à prendre cette décision de ne pas être ici aujourd'hui. Je peux vous le dire parce qu'on a parlé à plusieurs reprises hier. La décision était difficile pour lui, mais on avait besoin de lui vraiment à Québec, donc je suis le frappeur de relève désigné. Je veux vous parler du plan Nord, évidemment. Je veux vous parler du plan Nord et des Premières Nations. Mais avant, j'aimerais juste un peu mettre la table. On a conçu le plan Nord, puis j'étais aux premières loges, puisque j'ai été comme le Sherpa de ce beau projet-là, au gouvernement du Québec. On a conçu le plan Nord comme un vaste chantier de développement durable, et c'est pas juste des mots. Ce que ça veut dire, développement durable, vous le savez tous, je vais quand même le répéter, parce qu'il faut se le répéter souvent. C'est un équilibre entre la pointe économique, la pointe sociale et la pointe environnementale, et tout le projet plan Nord est bâti sur ces équilibres-là. On a beaucoup entendu parler du plan Nord depuis son lancement le 9 mai dernier. Et beaucoup de gens, puis je leur concède totalement le droit de le faire, ont posé un regard sur le plan Nord, mais à partir d'une des pointes d'attaque, pas les trois pointes de l'attaque. Et le plan Nord n'existe que par l'équilibre qu'essaye de maintenir entre les trois pointes d'attaque. Donc, on a beaucoup entendu parler d'économistes, par exemple, qui ont dit « Ah! » Pas assez riche cette affaire-là. Il est pas petit. Aussi, au niveau de la mouvance écologique, on disait oh, attention, là, vous êtes en train de faire la conservation sur roulette ou whatever. Là. On a entendu plein de choses. Mais le plan Nord, c'est d'abord l'équilibre entre toutes les constituantes du développement durable. Et moi, je n'ai pas peur de dire que ce chantier-là, qui est le plan Nord, est probablement le plus grand projet de développement durable dont s'est doté le Québec de son histoire. Évidemment, qui dit équilibre dit instabilité aussi. Et de temps à autre, effectivement, il faut rééquilibrer les choses, pas juste les messages, les actions. Mais le plan Nord, dans son approche, veut mettre de l'avant un développement ordonné, une vision intégrée du territoire. Est-ce qu'on a réussi à faire ça totalement dans le plan Nord? La réponse est non. On est juste en mode d'essayer d'atteindre cet objectif d'avoir un développement intégré sur ce territoire-là, qui est un territoire unique au monde, et faire en sorte qu'on pose les bons gestes au bon moment avec les bonnes personnes. Donc, on s'est donné aussi 25 ans pour réaliser ces objectifs-là, et on s'est dit 25 ans, c'est quand même long dans la vie, donc on va couper en petites tranches de 5 ans, donc de façon à pouvoir revenir sur nos bases, revenir sur les objectifs, est-ce qu'on les a bien atteints, est-ce qu'on a pris les bons moyens, etc. Donc, aux 5 ans, le gouvernement du Québec va revoir sa copie avec les gens pour voir si on est dans la bonne direction, si on fait les choses correctement, et le cas échéant, corriger les trajectoires si besoin est. La vision que se sont donnés les partenaires du plan Nord, et quand je dis partenaire ici, c'est 25 personnes réunies autour, à l'époque, le ministre Normandeau et maintenant de M. Gignac, et d'une série de ministres également qui, dépendamment du sujet discuté, étaient amenés à s'approprier, en fait, le contenu. C'est 25, donc, partenaires autour d'une table ronde qui ont travaillé en raison de 9 meetings qui ont duré à peu près une journée à chaque fois, à faire avancer la vision du plan Nord. Ça a pris 3 grandes réunions juste au début pour se doter d'une vision commune. Mais le défi était de taille. Parce qu'autour de cette table-là, il y avait des gens qui avaient des intérêts, des objectifs et des orientations totalement opposées. On a assis des gens qui sont de la mouvance écologique ou développement durable, on fait une nuance là-dedans, avec des gens du secteur minier, du secteur forestier, de la société civile que sont les CRI, et également les Premières Nations incluses dans le territoire du plan Nord, à savoir les Inuits, les CRI, les Naskapi et certaines communautés inuits. J'insiste sur certaines, parce que toutes les communautés inuits n'ont pas reçu la démarche plan Nord de manière égale. Il y a 5 communautés inuits sur 9, en fait, qui nous ont dit qu'ils voulaient bien savoir du plan Nord. Et on a respecté ça. On continue à respecter ça. Mais on pratique, et on va toujours pratiquer, la politique de la porte ouverte pour ces gens-là. Il y a également des communautés autochtones, issues de nations autochtones, dont les Anishinaabe, dont je vois quelques ressortissants ici, de Picogan, entre autres, et de Lac-Simon, qui ont levé la main, qui ont dit, nous, ça nous intéresse, le plan Nord, on ne comprend pas qu'on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Je vais aller me chercher de l'eau. Évidemment, dans une démarche comme celle-là, qui est vaste, assez compliquée, on s'est limité aux nations, aux communautés qui étaient à l'intérieur du périmètre du 49e parallèle. Mais en même temps, on s'est dit, on ne veut pas exclure par l'effet du plan Nord, les effets positifs du plan Nord, personne. Le plan Nord, c'est pour pas juste pour les gens qui vivent dans le Nord, bien qu'ils vont être les premiers à en bénéficier, mais c'est pour l'ensemble du Québec. Et à nos amis Anishinaabe et aussi à Tikamek, qui ont montré de l'intérêt dans le plan Nord, ce qu'on va commencer par faire, puis on va le faire, j'espère, le plus à court terme possible, c'est commencer par aller expliquer c'est quoi le plan Nord aux communautés, s'ils le désirent, et voir de quelle façon ils peuvent prendre une participation active dans la réalisation du plan Nord. Évidemment, bon, le microcosme que constitue la table des partenaires est assez unique. Je ne pense pas qu'on ait fait grand-chose de même au Québec dans les années, en tout cas dans les dernières décennies. Je vous disais, la société civile, bon, évidemment, les nations autochtones qui sont incluses ou qui désiraient participer étaient autour de la table. On avait également des gens, je l'ai dit, de la société civile, donc des non-autochtones en provenance des CRI, des représentants du ministère, des secteurs tourisme, énergie, biodiversité, alimentation, etc. Bref, on avait un aéropage de personnes qui ont, en fin de compte, avaient pas nécessairement grand-chose en commun quand on a commencé. Ils se sont donné une vision, ces gens-là, qui est inclus dans le document ici, et qui est claire, qui est, je pense, un bel effort d'essayer de mettre ensemble des choses pour s'en faire des objectifs communs. La participation des Premières Nations et des Inuits au plan Nord n'était pas gagnée d'avance, évidemment. Et on a dû, très tôt dans la démarche, offrir des garanties solides que les gens qui acceptaient de participer à la démarche plan Nord et plus tard d'y participer dans son implantation et aussi d'en bénéficier, ont demandé qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient mises à l'abri. Et on l'a fait. Pour les gens qui n'ont pas lu ce document-là, je vous invite à le faire. Quand je vous parlais d'équilibre tantôt, il est tout en équilibre, je pense. Et de la page 23 à la page 25, on dit clairement de quel type de garantie il s'agit en ce qui concerne les Premières Nations. Je vais en nommer quelques-unes. Il était clair, en partant, que les Premières Nations ou les Inuits ne voulaient pas que, à cause qu'on était en démarche pour se bâtir un plan Nord ensemble, qu'on arrête de s'occuper de leur dossier, tout bonnement. Alors, évidemment, donc le « ongoing », je m'excuse du latinisme, le « ongoing » devait continuer et les choses qui devaient se faire entre nous devaient se faire. Ça, c'est la première garantie. La deuxième garantie, c'était évidemment, il n'y a rien dans le plan Nord qui vient, encore une fois, bulldozer quoi que ce soit comme disposition en termes de régime environnemental existant, ni non plus de notre obligation de consulter, et non plus quelque chose qui pourrait venir heurter les droits en présence en matière autochtone ou les droits en discussion, parce qu'on est en discussion aussi avec trois communautés inues, qui, je l'espère, on va arriver à un traité un de ces jours, mais qui ont signé l'entente de principe d'ordre général qu'on appelle l'EPOG en 2004. Donc, on a donné cet ensemble de garanties-là aux parties prenantes autochtones dans le cadre du plan Nord, puis on les a mis clairement, noir sur blanc, dans le document qui a été lancé le 9 mai dernier. Les communautés ne sont pas toutes pareilles, n'ont pas tous les mêmes besoins. Et on a vu, par exemple, les Inuits extrêmement actifs dans le cadre du plan Nord, notamment pour faire valoir qu'on aura beau avoir de grandes ambitions économiques, environnementales ou sociales dans ce territoire-là, si les Inuits n'étaient pas convenablement logés, on avait un problème. On a essayé d'amener le gouvernement fédéral à des considérations, de faire un effort. Parce qu'on en faisait déjà des efforts, il faut être juste, là. On a une entente tripartite en matière de logement dans le Nunavik qui va, sur un 0,5 ans, créer 340 logements. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un déficit de 1000 logements dans le Nunavik. Or, si les jeunes ne sont pas capables de travailler parce qu'il y a tout le monde à la maison, si la promiscuité de plusieurs générations dans un même logement crée les problèmes sociaux qu'on connaît, comment voulez-vous qu'on mette ces gens-là en phase pour être capable d'envisager leur avenir? Leur avenir de manière sereine. On s'est dit au Québec, bon, ben, on n'attendra pas par le gouvernement fédéral, nous, on va faire une offre pour 500 logements supplémentaires. Donc, la moitié du rattrapage à faire en matière de logement va se faire dans les premiers 5 ans du plan Nord. C'est peut-être pas 1000, mais c'est un très gros effort de la part du gouvernement du Québec. Et je pense être reconnu par les leaders inuits. Il y a aussi d'autres communautés qui, eux, avaient des préoccupations plus d'affaires. Je pense notamment à Natashquan, où l'immense projet de la Romaine est en cours, comme vous le savez. Ces gens-là voulaient être en mesure de bâtir des capacités à l'intérieur de la communauté pour être capables de profiter de ce projet-là. Et on s'y est un peu appliqué. Eux s'y ont d'abord appliqué, et nous, on est venu en support. Hydro-Québec a octroyé un ensemble de contrats à cette communauté-là. Les choses ne sont jamais parfaites, mais actuellement, il y a de nombreux Inuits qui travaillent sur les chantiers hydroélectriques du territoire. Également, les minières qui vont créer un nombre assez invraisemblable d'emplois dans les années qui viennent je pense qu'ont compris très bien l'importance des Premières Nations sur le territoire et de l'incroyable capacité que ces gens-là avaient à fournir une expertise dans le territoire nordique, de sorte que, plutôt que de se voir comme de potentiels ennemis sur le territoire, beaucoup de communautés autochtones ont signé des ententes, on appelle ça des ententes de répercussion et d'avantage, des ERA, avec des compagnies minières. Presque toutes ces ententes-là incluent un volet formation, des dédommagements au niveau, ou plutôt un encouragement au développement économique qui prend généralement la forme d'une enveloppe, et des contrats. Actuellement, pour la seule communauté de Matimécoche, il y a, si mes chiffres sont corrects, là, je ne les ai pas actualisés, malheureusement, je n'ai pas eu le temps, je pense que c'est 92 Inuits qui sont à l'emploi d'une compagnie minière dans le coin de Shefferville. Et ce n'est qu'un début. J'aurais envie de vous dire que le plan Nord est quelque chose qui, de mon point de vue, est très porteur d'avenir. Je pense que je ne suis peut-être pas objectif quand je le dis, mais je le pense vraiment. Et qu'il y a vraiment une opportunité pour tout le monde là-dedans. Une opportunité pour les Premières Nations, évidemment, pour les communautés aussi non autochtones dans le territoire, et une opportunité aussi pour les Québécois. Depuis qu'on a lancé le plan Nord le 9 mai dernier, c'est par milliers les appels que le ministère d'Emploi et Solidarité sociale reçoit pour savoir où ils doivent s'embaucher pour le plan Nord. C'est-à-dire des gens du Sud, d'ailleurs, au Québec, qui ont de l'intérêt à monter dans le territoire et à participer à cette aventure-là. On a, on a beaucoup parlé des développements miniers, mais aussi au niveau du front environnemental, on a fait des avancées, je pense, importantes. Le plan Nord préconise que 50 % du territoire plan Nord, donc 600 000 km², soit soustrait à l'activité industrielle. Et c'est un objectif audacieux, parce que, entre autres, on connaît assez peu le territoire du Nord. Et je pense que pour faire une bonne job, autant sur le plan de la conservation que sur le plan du développement, on doit se faire des devoirs de connaissance. Le premier 5 ans du plan Nord va beaucoup servir à ça. Ce qui est en jeu en ce moment, c'est que c'est clair qu'on va monter à 12 % d'aires protégées en 2015 dans ce territoire-là, et probablement plus. Aussi, on s'est dit qu'on pourrait rendre clair que l'échéance du 50 % donc où on aura eu 50 % du territoire qui sera soustrait à l'activité industrielle, pouvait être 2035. Tout un défi. Mais en même temps, on s'est donné comme un rendez-vous. Dans 10 ans, on va faire le tour de la situation tout ensemble pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui reste à faire. Et le 10 ans d'après va aussi servir à faire le point, de sorte qu'en 2035, on devrait reconnaître le travail de tout le monde et un 50 % effectif en matière de protection, de conservation et d'activité non industrielle. C'est un chantier. Le 50 % lui-même est un chantier. Le gouvernement du Québec, M. Arcan va déposer un projet de loi. Je ne sais pas quand exactement, je ne sais pas si cette session-ci ou ça sera plutôt l'autre, je crois que ça sera plutôt l'autre. Le ministère du Développement de l'Environnement, Développement durable, ont mené une vaste consultation à travers le territoire, mais également ailleurs au Québec. Ils sont en train, en fait, de colliger l'ensemble de ce qu'ils ont entendu de façon générale pour essayer de dégager le plus grand consensus possible. Et parlant de consensus, puis je pense que je vais m'arrêter là, parce que mon temps ne va être pas loin. Le plan Nord, n'a pas l'ambition de l'unanimité. Il ne l'a jamais eu. On a voulu travailler avec les plus larges consensus possibles pour essayer d'arriver à quelque chose où les gens pourraient se reconnaître. Quand je dis les gens, c'est surtout les gens du territoire, mais pas juste du territoire. Et c'est évident que quand on dit consensus, pour un gouvernement, c'est toujours plus confortable qu'il soit le plus large possible. On n'a pas réussi partout. Je vous parlais des 5 communautés innues qui n'ont pas voulu participer à la démarche. Et d'ailleurs, il y a un chef aujourd'hui qui a fait une sortie importante à l'effet qu'il partirait sur le sentier de la guerre pour dénoncer le plan Nord partout sa planète, qui, vous l'avez compris, une des communautés innues qui n'était pas intéressée au plan Nord. Mais je voulais juste, et je termine là-dessus, vous faire peut-être une remarque ou tout au moins une mise en garde. On entend parler du plan Nord pour n'importe quoi. À n'importe quel sujet, tout est en fait un bon prétexte à parler du plan Nord sans en parler vraiment. Ce qui est clair dans le cas de Petit-Amit, et ça peut se reproduire aussi dans l'histoire du plan Nord, c'est qu'il y a des gens qui ont tendance à prendre le plan Nord comme un levier pour faire avancer des réclamations. Réclamations qui ne sont pas tout le temps faciles à envisager, mais il faut faire attention parce qu'on peut se servir du plan Nord comme d'un levier pour faire avancer ses affaires, mais le plan Nord, c'est le plan Nord. C'est-à-dire qu'il y a des offres très généreuses là-dedans. Il y a des choses, je pense, qui sont porteuses d'avenir. Qu'on ne veuille pas y participer est une chose, qu'on veuille s'en servir comme un levier pour faire peur à un gouvernement, pour faire avancer ses réclamations, ça en est une autre. Je vais vous laisser votre libre arbitre là-dessus. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dubois. Maintenant, j'invite M. Mackenzie du Conseil Innu à prendre la parole.
Mm-hmm. Je vais me mettre un timer. Parce que Inou, pas Inou, mais avocat veut dire Kaymit en Inou, et ça veut dire quelqu'un qui parle longtemps. Alors, Kwe, Kasno et Teshik, Timam Naponyek, Tumstopohogadadnon, Monsieur le sous-ministre, mon ami Christian Dubois. D'ailleurs, je suis quand même très content de le retrouver là. Et puis, c'est peut-être la première occasion publique que j'ai de le féliciter pour sa nomination. Et le fait qu'il ait été impliqué dans le développement régional et amène déjà une couleur ou une teinte à la réalité des peuples autochtones qui vivent dans des régions souvent inaccessibles. Donc, Pierre, Catherine, Alexandre, mesdames et messieurs, hier après-midi, sur les rives de la Sainte-Marguerite, entre Sept-Îles et Port-Cartier, près du barrage SM1, construit à l'époque par la multinationale Iron Ore Company pour alimenter ses installations minières et la ville de Sept-Îles, sur les rives même où ma mère Cree et Inou remontaient cette grande et difficile rivière pour aller sur leur territoire de chasse, à pied, en canot, avec des portage également. Donc, le territoire de chasse Kanyapisco, qui est maintenant ennoyé en raison des travaux de la baie James au début des années 70, ou fin des années 70. Dans le cadre d'un reportage de la CBC, un jeune Inou m'a posé la question suivante. Dites-moi, M. McKenzie, quelle est la situation entre les peuples autochtones et les compagnies qui veulent exploiter des terres, les terres des autochtones? Une question est, ma foi, un sujet bien d'actualité qui cadre bien avec cette conférence. Voici ce que je lui ai répondu. 1. Le militantisme autochtone des années 70, 80 et 90 a permis de former des leaders forts et des organisations fortes, souvent avec l'aide d'anthropologues, j'en vois un ici dans le fond de la salle, assurant ainsi un discours autochtone axé sur la nécessité de rééquilibrer les forces économiques et politiques entre l'État, les compagnies transnationales et les peuples autochtones. 2. Les décisions d'Elgamouk, Haida et Taku River de la Cour suprême du Canada ont permis de fixer des paramètres juridiques forçant tant l'État que les compagnies transnationales de négocier de bonne foi avec les peuples autochtones afin, d'une part, de les consulter et, d'autre part, de rechercher, si vous me permettez l'expression, les accommodements raisonnables en regard de leurs droits ancestraux et issus de traités en lien avec leurs terres et leurs ressources naturelles. À cette époque, j'étais étudiant en droit à Ottawa. À cette époque, donc, au moment de la décision d'Elgamouk, le fameux columniste du Globe and Mail, Jeffrey Simpson, avait décrit cet arrêt comme étant une des décisions les plus importantes rendues par le plus haut tribunal de ce pays, puisqu'elle allait bouleverser le rapport économique entre l'État canadien et ses peuples autochtones. 3. L'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2007, et j'y étais, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a permis de fixer les normes minimales garantissant la survie et la dignité des 300 millions de peuples autochtones à travers le monde. Particulièrement à son article 32, s'agissant du développement et de la mise en valeur des territoires traditionnels occupés et possédés par les peuples autochtones, la Déclaration vient établir, à mon avis, un régime dynamique, un cadre juridique international et national par lesquels peuvent se tenir des négociations plus équilibrées entre l'État et les peuples autochtones. Il s'agit non pas d'un droit de veto en faveur des peuples autochtones, mais d'un réalignement majeur des forces politiques et économiques qui, à mes yeux, oblige l'État et les compagnies à rechercher le consentement préalable, libre et en toute connaissance de cause, des peuples autochtones avant de réaliser des projets sur des terres occupées par des autochtones et ayant un impact social, culturel, environnemental sur ceux-ci, sur les peuples autochtones et sur la ressource naturelle. Bref, si vous me permettez, je prends moi aussi. Bref, la donne a changé. Et Dieu sait de quoi je parle, puisque ça fait quand même 25 ans que je suis impliqué dans ces négociations. Bref, la donne a changé du temps de ma mère, lorsqu'il remontait avec sa famille, la Chemin-Bishtuk ou la Sainte-Marguerite, des projets comme le barrage de la compagnie Aéronord, voire même les chemins de fer d'IOC, d'ArcelorMittal, anciennement de QCM, Québec Cartier Mining, de même que la construction de villes comme Fermont, Schefferville, Gagnonville, Sept-Îles, ou d'exploitation de ressources minérales autochtones, tout cela se faisait sans les Autochtones. Ces derniers subissant le mal-développement et créant de ce fait une fracture au sein de la société innu, avec tous les traumas sociaux découlant de ces projets, réalisés sans le consentement des Autochtones et sans une contrepartie pour réparer ou redresser la nouvelle situation dans laquelle se trouvaient les peuples autochtones. Devant cette réalité, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Nord, annoncé par le gouvernement du Québec, nous devons apprendre de l'histoire et ne pas répéter les erreurs du passé. Des défis énormes nous attendent, autant nous, les peuples autochtones, que l'État québécois. En effet, le traité de libre-échange entre les États-Unis et le Canada, la possibilité d'étendre une zone économique Asie-Pacifique impliquant le Canada, l'accroissement de la population mondiale, principalement avec l'Inde et la Chine, la demande croissante de ressources naturelles provenant de ces deux pays crée une pression énorme, autant sur les gouvernements provinciaux du Québec, de Terre-Neuve et Labrador, ainsi que sur les sociétés autochtones. Le rouleau compresseur américain des années 50 est maintenant remplacé par un rouleau compresseur asiatique. Nous devons être lucides, prêts et solidaires. Les gouvernements du Québec, de Terre-Neuve et Labrador doivent être sensibles aux réalités et demandes des sociétés autochtones, puisqu'il en va de leur survie en tant que peuple autochtone. Les Autochtones sont autochtones dans le sens qu'ils n'iront pas ailleurs avant, pendant et après le plan Nord. Leur territoire, c'est Iyotsi, Nitaskinan, Nunavik, Nitassinan. Les nations autochtones reconnues par l'Assemblée nationale en 1985 et dorénavant par la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones doivent être reconnues comme étant des partenaires incontournables dans le développement des territoires nordiques de la péninsule du Québec-Labrador. Dans un contexte de droits humains fondamentaux, l'État québécois se doit être au-dessus de tout soupçon quant au traitement des droits constitutionnels des nations autochtones. L'État québécois doit être à la recherche de solutions pour répondre aux aspirations économiques et politiques de ces nations. La situation minoritaire et vulnérable de ces peuples exige que, dans un contexte de respect des droits et libertés fondamentales des nations autochtones, l'État québécois se montre ouvert et généreux. Le récent projet d'entente de nouvelles relations de nation à nation entre les Innus de Ouachat Makmaliutram, de même que la paix des Braves, et je pourrais mentionner également l'entente avec les Inuits du Nunavik, met, à mon avis, le Québec à l'avant-garde dans la reconnaissance et la protection des droits économiques et politiques des peuples autochtones. Je ne dis pas cela parce que M. le ministre Kelly devait être à côté de moi et pas parce que mon ami Christian Dubois est à côté. Je le dis parce que je parle d'expérience. J'ai vu la situation de nombreux peuples autochtones à travers le monde et je crois que le Québec est effectivement à l'avant-garde. Tout n'est pas parfait, M. Dubois l'a mentionné, puisque j'ai dû faire un gentil rappel la semaine dernière, aux collègues de M. Kelly, le ministre responsable du plan Nord, M. Gignac, c'est bien ça? qu'ils n'avaient pas une seule fois prononcé le mot « Innu » ou « Autochtone » dans le cadre de son discours devant la Chambre de commerce à cette île. Donc, il faut faire un rappel constant. Nonobstant cela, le Québec deviendra un chef de file dans le monde s'il maintient le cap de la reconnaissance explicite des droits économiques et politiques des peuples autochtones. Ainsi, l'entente de nouvelles relations de nation à nation entre les Wachonout et le Québec prévoit notamment la création et le financement d'un centre de formation multifonctionnel pour la formation professionnelle, de même que la formation aux adultes. Ceci est très important dans le contexte des projets de développement visés par le plan Nord du gouvernement du Québec. La création d'un fonds de développement social et communautaire qui a été difficilement négocié, mais obtenu, qui permettrait à Ouachat et Maliotenam de répondre immédiatement aux demandes de logement de la communauté par la construction, au cours des 5 prochaines années, de 300 maisons pour les jeunes familles innues. On n'a pas attendu le gouvernement fédéral, qui est pourtant responsable de ces dossiers et qui a été complètement absent lors des négociations. M. Dubois mentionnait tantôt les problèmes de promiscuité, les problèmes que cela entraîne en termes de problèmes sociaux, le fait de manquer des logements. Alors, ici, le gouvernement du Québec a extensionné une offre de plus ou moins de 300 maisons pour les jeunes familles innues à Ouachat, Maliotenam, ce qui est très important et substantiel pour la communauté. L'entente, le projet d'entente prévoit également le financement de projets générateurs de richesses, l'octroi supplémentaire de contrats de gré à gré pour la réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont, et, ce qui est très important, l'engagement du Québec d'encourager la négociation d'ententes de développement économique entre les grandes multinationales de la Côte-Nord et la communauté innu de Ouachat, grandes multinationales qui ont littéralement, pendant plusieurs années, ignoré les demandes et revendications des peuples autochtones. Le tout sans extinction des droits ancestraux ou issus de traités des Wachonout. En procédant ainsi, le Québec et les Innus s'assurent d'une certitude économique quant à la réalisation de grands projets de développement sur la Côte-Nord et sur les territoires nordiques. Au nom de notre chef, Georges-Ernest Grégoire, j'exhorte le Québec à maintenir tous les acquis que l'on trouve dans l'entente de nouvelles relations de nation à nation entre les Wachonout et le Québec. Évidemment, de notre côté, nous allons faire tous nos efforts à poursuivre le dialogue à l'interne avec notre communauté afin de s'assurer que les conditions gagnantes, afin que celle-ci, notre communauté, approuve sans réserve, dans l'honneur et l'enthousiasme, cette entente qui, ma foi, pourrait servir de modèle à d'autres communautés autochtones au Québec. Car, bien que nous ayons des droits, nous avons également des obligations. Et l'une de celles-ci est de parler d'une seule voix, en tant que peuple, de faire l'effort d'être unis comme nation innu, de cesser nos différends internes et la multiplication des interlocuteurs et prendre exemple sur les nations Cree et Inuit. Si d'anciens ennemis de l'Europe ont pu faire la paix et se regrouper dans une zone économique et politique euro, si des pays de 25, 30 et 100 millions de populations peuvent se regrouper, alors il va de soi qu'il est essentiel et crucial pour la survie des 20 000 Innus de s'unir, de se parler et de trouver une façon de négocier ensemble la mise en œuvre du plan Nord et d'y trouver leur compte. Je m'en voudrais de conclure sans mentionner trois autres éléments du plan Nord proposés par le gouvernement du Québec. Primo, la pratique du fly-in et fly-out, soit d'importer des travailleurs migrants vers les grands chantiers en territoire nordique, risque d'avoir un impact beaucoup plus considérable sur les travailleurs autochtones que sur les syndicats. Car chez nous, nos populations sont en manque d'emploi depuis plusieurs années, voire même des décennies. Secondo, la loi sur les mines doit être renforcée en y incluant des dispositions particulières sur les peuples autochtones, en instaurant un régime de redevance progressiste qui permet aux communautés autochtones affectées d'y bénéficier. mais de s'assurer également que la consultation des peuples autochtones et l'accommodement de leurs droits constitutionnels se fassent dès l'exploration jusqu'à la restauration progressive des sites miniers. Je songe particulièrement à l'article 15 de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui se lit comme suit, et je cite au long, « Les droits des peuples autochtones intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui pour ces peuples de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. » Dans le cas où l'État conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir et maintenir des procédures pour consulter les peuples autochtones dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples autochtones, les peuples intéressés, doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités. Cela est crucial, cela est important lorsqu'on pense à la situation, par exemple, chez les Anishinaabe ou encore à Schefferville, d'où je suis originaire, où pendant plusieurs années, la minière IOC, multinationale américaine, a bénéficier des richesses des territoires des peuples autochtones sans retour, sans compensation ou sans redressement de la situation socio-économique des Autochtones. Tertio, en raison du mal développement que les peuples autochtones ont subi dans le passé, en l'absence d'entente ou l'obtention de leur consentement, de même qu'en raison du fragile écosystème des territoires nordiques habités par les Autochtones, et je sais de quoi je parle, Je fais écho aux revendications d'Initiative boréale canadienne et d'autres groupes environnementaux comme Nature Québec de la nécessité de vraiment protéger 50 % du territoire nordique. Le Québec a fait des progrès sur cette question. Il faut faire davantage. Il s'agit de continuer dans cette voie et de redoubler dans l'effort réel de protéger un territoire exceptionnel. Je n'achève que maintenant. Je vous remercie tous de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, M. McKenzie. Maintenant, Hugo Asselin. Oui, ça va. Donc, il va intervenir directement de l'avant.
Bon, c'est un... Bonjour tout le monde, c'est un peu intimidant de parler après ces deux-là. Je vais essayer de ne pas trop sonner prof d'université, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'amener mon PowerPoint. Donc voilà, c'est ça, je m'appelle Hugo Asselin. Jusqu'au 9 juin 2011, je pensais que j'étais né dans le Nord et que j'habitais dans le Nord. J'habite à Rouyn-Noranda. J'ai été déclassé, maintenant j'habite dans le Sud. Pour faire écho un peu à tous les événements qu'on peut suivre dans les médias ces temps-ci, j'ai intitulé ma présentation « Occupons le Nord ». Et bien sûr, le Nord est déjà occupé, ça fait très longtemps, ça fait des millénaires. On devrait le savoir, mais semble-t-il, on ne le sait pas assez. On entend dans certains discours à propos du plan Nord que le Nord est une frontière à repousser. Une sorte de langage comme s'il n'y avait personne là et qu'on... On pouvait s'approprier ce territoire vierge, ce qui est bien entendu pas le cas, vous en conviendrez. Donc, encore beaucoup de travail à faire pour rétablir le rapport de force, si je peux me permettre de parler comme un politologue. Alors, le plan Nord au Québec, ça tombe pas du ciel, si on veut. C'est une initiative qui en suit d'autres, et entre autres en Ontario. Ils ont, eux aussi, une sorte de plan Nord. Eux, ils appellent ça le Grand Nord. Et donc, le plan québécois semble s'inspirer, en partie du moins, du plan ontarien, mais il y aurait au moins trois morceaux importants qui n'ont pas fait le voyage entre l'Ontario puis le Québec. Donc, dans le plan du Grand Nord ontarien, tous les projets de développement passent par des plans communautaires d'aménagement. Ces plans-là sont rédigés par des comités paritaires autochtones et non-autochtones. Et il n'y a aucun projet de développement dans le Grand Nord qui peut se faire s'il ne cadre pas avec les plans communautaires d'aménagement. Et dans les régions où il n'y a pas de tel plan, il n'y a pas de développement non plus. Donc ça, bien, on ne trouve pas ça dans le plan Nord du Québec, en tout cas pas encore. Je ne sais pas si M. le sous-ministre prend des notes. Autre chose qui n'a pas été transférée dans le plan québécois, en fait, c'est que ça a été transféré, mais à l'envers, peut-être un effet miroir, mais dans le plan ontarien, à chaque fois qu'on parle du développement durable, on parle d'environnement en premier, de société en deuxième et enfin d'économie en troisième. Au Québec, c'est l'inverse. Et M. Dubois, tout à l'heure, l'a bien mentionné. Là. Donc, pour le Québec, le développement durable, c'est un développement économique qui se fait dans le respect des gens et, en dernier, de l'environnement. Et finalement, dans le plan ontarien, il y a mention que le plan concerne en premier lieu les communautés autochtones qui sont dont les réserves ou les communautés sont dans la zone du plan Nord ontarien, mais qu'il y a une ouverture à d'autres communautés. Au Québec, sauf récemment, en fait, depuis 15 minutes, j'ai entendu des choses, mais sinon, les Anishinaabés, les Algonquins et les Atikamekw sont exclus du plan Nord, même si il y a au moins une communauté là, dans chacune de ces deux nations-là, dont le territoire ancestral chevauche ou en fait fait partie de la zone considérée dans le plan Nord. Donc, c'est assez dommage que ces deux nations-là aient été oubliées. C'est quand même pas rien. Donc, voici au Québec, on parle d'un développement économique socialement responsable et durable. Donc, tantôt encore, M. Dubois parlait des trois pointes de tarte, là, de l'environnement, du social et de l'économique. C'est une façon de voir les choses lorsqu'on parle de développement durable. En fait, on pourrait aussi, si vous regardez à droite, là, l'espèce de cible, ça pourrait être encore une tarte si on veut continuer dans l'analogie culinaire. Mais plutôt que des pointes, ça serait des couches. Et donc, il faudrait, à mon sens, plutôt concevoir le développement durable comme l'environnement étant la condition sine qua non. S'il n'y a pas d'environnement, ça va bien mal pour faire du développement. Et donc, l'environnement, c'est la condition de base pour que la société puisse se mettre en place et cette société-là se dote d'une économie. Donc, c'est pas pareil comme conception. Le Nord, n'ayez pas peur, là, je vais l'expliquer. Le Nord du Québec, c'est une zone très vaste, on l'a parlé tantôt, 1,2 million de kilomètres carrés. Et c'est une zone qui, jusqu'à maintenant, a été quand même relativement peu affectée par le développement industriel ou le développement urbain, etc. Et c'est ce que ça veut dire, c'est qu'on a quand même une zone où ça serait possible d'essayer des nouvelles formes de développement, de ne pas reproduire les patrons qu'on a fait jusqu'à maintenant ailleurs, parce que, justement, on n'a pas les mêmes contingences dont il faut tenir compte. Et là, je vous parle ici de la matrice inversée. De quoi il s'agit, c'est que pour l'instant, puis c'était très clair dans le discours de M. Dubois, on conçoit le territoire comme un territoire qui va être exploité et dans lequel on va placer des îlots de protection, des aires protégées. En fait, il faudrait voir les choses à l'envers, la matrice inversée, donc avoir une matrice de protection, voir le territoire a priori comme un territoire protégé ou à protéger et dans lequel on conçoit qu'il va y avoir des îlots d'exploitation ou de développement. Ça réglerait beaucoup de problèmes et ça ferait en sorte de transposer le fardeau de la preuve sur les développeurs là où ils devraient être. Donc, présentement, c'est ceux qui veulent protéger les territoires qui sont obligés d'expliquer pourquoi, alors que ceux qui développent peuvent développer en toute impunité. Voici une image tirée d'un quotidien montréalais qui explique le plan Nord en 5 minutes. Je trouvais ça assez remarquable. En fait, je vous montrais ça, c'est un peu pour rigoler, mais ce qu'on voit là-dessus, c'est de l'hydroélectricité, des mines, de la foresterie, du tourisme. Donc, une vision purement économique du Nord. Donc, si les journalistes qui ont produit ça pensaient que c'était ça, le plan Nord, c'est qu'en quelque part, ils ont lu ça. Ça laisse croire que le plan Nord, ce n'est pas un plan de développement territorial, c'est un plan d'exploitation des ressources. Et si c'est le cas, il faudrait le dire, ou il aurait fallu le dire dès le début pour ne pas créer toutes les attentes qu'on connaît. Est-ce réaliste de parler de développement durable lorsqu'on parle du plan Nord? Bon, on vient de le dire deux fois plutôt qu'une, c'est l'économie avant tout, tellement que lorsqu'on parle des projets hydroélectriques, on les appelle des portefeuilles. C'est vraiment de toute beauté. Ça veut dire que ces projets-là ne sont pas là pour produire de l'électricité, mais pour produire de l'argent. C'est tout au privé. Tantôt, M. McKenzie parlait des grandes corporations, autrefois américaines, maintenant peut-être un peu plus asiatiques, mais c'est toujours l'industrie privée et, en plus, privée dont les sièges sociaux sont en dehors du Québec. Pourtant, dans les années 70, puis on dit souvent que c'est le plus grand projet de développement depuis les années 70, mais dans les années 70, c'était pas tout au privé, puis on a été capable de le faire comme société. Il n'y a pas tellement de place pour l'entrepreneuriat autochtone. Quand on connaît les limites avec lesquelles les Autochtones doivent composer, en raison notamment de la loi sur les Indiens, on sait que généralement, c'est des coopératives ou des entreprises communautaires qui sont favorisées dans ces milieux-là. Et on s'entend que quand on parle des projets de 10 milliards, ça prend une coop qui a les reins pas mal solides pour embarquer là-dedans. On parle de ressources non renouvelables. Donc déjà, juste là, j'aurais pu le mettre en premier. Là, développement durable, ressources non renouvelables, ça sonne drôle dans la même phrase. Bien sûr, c'est les mines. On a dit tantôt qu'il y avait la foresterie et d'autres ressources renouvelables qui pourront être exploitées dans le Nord, mais quand même, pour l'instant, c'est surtout les mines dont on parle. J'ai écrit « protection timide ». Bon, le 50 % on l'entend, puis on se le fait marteler à tour de bras. Premièrement, 50 % on l'a dit tout à l'heure, M. Dubois, ça va être en 2035, donc on fait des promesses pour dans 25 ans. Vous connaissez la petite phrase, là, en politique, un an, c'est une éternité. Fait que 25 ans, je ne sais pas. Et on fait des promesses sur 25 ans. Ce qui est vraiment concret pour le moment, c'est 12 %. M. Dubois l'a dit tout à l'heure, 12 % en 2015 ou en 2020. Ce qui ne correspond même pas à l'engagement que près de 200 pays ont pris à Nagoya, au Japon, en 2010, de protéger 17 %. Donc, si on n'est pas capable de protéger 17 % dans le Nord, ça va être beau dans le Sud. Ensuite, les infrastructures, pour l'instant, dans le Nord, sont pensées surtout pour l'industrie plutôt que pour les communautés. Un très bel exemple de ça, c'est la route qui va relier le nord de Chibougamau jusqu'au mont Atiche pour la mine de diamants de la compagnie Stornoway. Moi, j'appelle ça une route qui va de nulle part à nulle part, c'est-à-dire que si jamais la mine n'ouvrait pas, ou elle ouvre puis elle ferme par la suite, cette route-là sert à rien. Elle ne relie pas deux communautés et même les trappeurs ou les chasseurs qui auraient leur territoire dans cette zone-là, ils n'iraient plus parce que quand il y a une route, il n'y a plus de caribou. Je caricature un peu, mais à peine. Les redevances sont insuffisantes. Il y a plein d'économistes qui l'ont dit, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Mais nettement, au mieux, on arrive égal, sinon on perd de l'argent avec le plan Nord. Donc, ça cause tout un ensemble de problèmes pour les promesses qui sont faites avec ce plan-là. Et on a une approche sectorielle. Donc, on fait comme si les choses étaient en silo, les forêts, les mines, l'eau, les gens, alors que tout ça, c'est relié. Et là, j'ai mis le social avec un point d'interrogation. Parce que quand je lisais le plan Nord, je me disais, coudonc, à part les maisons pour les Inuits, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de social. Et je me suis fait dire par quelqu'un dans le Nord que le social, c'est pour plus tard. Donc, je ne dirais pas c'est qui, là, ça ne serait pas gentil. Mais quand même, quelqu'un m'a dit ça et je trouvais ça assez remarquable parce que avec les projets qui sont sur la table et qui sont même en développement présentement, les problèmes qui sont écrits là sur la diapo, on va les voir dès maintenant. Donc, le stress, la dépression, les problèmes familiaux, tout ça, qui existent déjà en grande partie, mais qui vont être peut-être exacerbés par certains projets, des choses encore pires aussi, et toutes les questions de la perte d'accès aux ressources, de la perte de repères culturels. Donc là, on pourrait penser que c'est contrebalancé par les redevances. On a déjà dit que ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, ces redevances-là, si jamais il y en a, est-ce qu'elles vont vraiment aller dans le Nord ou, comme on l'a dit tout à l'heure, aller dans tout le Québec? Donc, c'est le Nord qui subit les impacts, mais c'est tout le Québec qui ramasse les bénéfices s'il y en a. Est-ce qu'il va y avoir des emplois? D'abord, avant d'avoir des emplois, ça prend de la formation. Et s'il y a de la formation, cette formation-là va être donnée où? Est-ce que les gens du Nord vont être obligés d'aller dans le Sud pour suivre des formations, pour retourner ensuite au Nord avoir des emplois? Qui va donner cette formation-là? Comment? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a de l'argent pour payer pour cette formation-là? On ne sait pas non plus. Les emplois, on a parlé tout à l'heure de plusieurs emplois à Matimécouche ou dans d'autres communautés. De quel type d'emploi il s'agit? Je ne sais pas s'il y a des tonnes d'ingénieurs dans le Nord qui attendent présentement qu'une mine ouvre pour travailler. À mon avis, les emplois qui sont accessibles directement ou en tout cas tout de suite pour les Autochtones, ce n'est pas nécessairement ceux après lesquels tout le monde court. Le logement, on a parlé de logement pour les Inuits, comme si les autres nations n'avaient pas de problème de logement. En fait, on comprend que les Inuits, ça devait être un deal qui était déjà en cours puis qu'on inclut dans le plan Nord. Les infrastructures, j'en ai déjà parlé. Tout ça, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, coudon, est-ce qu'on est en face encore du fameux problème de la malédiction des ressources naturelles? La malédiction des ressources naturelles, de quoi s'agit-il? On pourrait penser qu'une région qui est très bien pourvue en ressources naturelles aurait tout ce qu'il faut pour se développer socialement, économiquement. Et donc, avoir quelque chose comme ça, plus il y a de ressources, mieux ça se développe. Et pourtant, partout sur la planète, c'est le contraire qui se produit. L'Abitibi-Témiscamingue en est un très bon exemple. Donc, s'il y a une région du Québec qui est riche en ressources naturelles, c'est bien l'Abitibi-Témiscamingue. Pourtant, encore aujourd'hui, après un peu plus de 100 ans d'histoire, tous nos indicateurs socio-économiques sont en dessous de la moyenne québécoise. Est-ce qu'on va reproduire ça dans le Nord? Avec tout ce que je viens de dire, j'ai peur que oui. Comment on pourrait conjurer le mauvais sort? Il va y avoir plein de mots, là, mais ça va vous alimenter pour vos questions. Donc, ça prend un développement endogène, donc un développement par les gens du Nord, pour les gens du Nord, pas un développement du Sud. Ça prend un développement holistique, c'est-à-dire qui conçoit toutes les choses comme un tout et lié entre elles plutôt qu'en silo. Il faut que ce soit inclusif, donc que tout le monde soit partie prenante de ça. Réfléchis. Mme Normandeau, lorsqu'elle était encore là, disait que le premier plan quinquennal, celui dans lequel on est présentement, il était pour réfléchir. Penser le développement avant de le faire. Je pense qu'ils ont déjà annoncé pour 100 milliards de projets. Je veux dire, ça va être beau quand ils vont arrêter de réfléchir. Il faut évidemment que ce soit du développement durable. Les Autochtones, là-dedans, il faut qu'ils soient décideurs, au même titre que les autres acteurs, et même plus, tant qu'à ça. Il faut un rehaussement de leurs conditions socio-économiques. Donc, avant même de penser que certains profits générés par le plan Nord pourraient, s'il y en a, aller dans le Sud, à mon sens, il faut rétablir les conditions socio-économiques des gens du Nord, autochtones bien sûr, mais non autochtones aussi, au même niveau que ceux du Sud de la province. Après ça, on pensera à partager la fameuse tarte. Il faut respecter la et même les cultures. Il y a des différences, et ces différences-là, on ne peut pas les gommer. Il faut en tenir compte. Il faut des emplois de qualité. Il faut de la formation adaptée. Le public doit être impliqué avec le privé. Donc, pas juste un, pas juste l'autre, mais les deux, ça, c'est sûr. Il faut de la place pour les petites et moyennes entreprises, les coopératives, les entreprises communautaires. Donc, il y a un peu de diversité là-dedans pour que si jamais Wall Street se plante, le nord du Québec ne plante pas avec. La matrice inversée, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut de la recherche et développement. On parle de 1,2 million de kilomètres carrés et pour l'instant, il y a à peu près 0 $ de prévu dans la recherche et développement pour mieux connaître cette immense région-là. Pour le secteur un peu de la baie James, on est chanceux, on a les études des années 70, mais pour la majorité du reste, on connaît peu puis on s'enligne pour ne pas connaître plus. Ça prend de la transformation locale des ressources. Là, on nous dit que c'est impossible quand on n'a pas un port à proximité. On va construire un port en eau profonde à Coujouarapic qui va être en fait au Nunavut. Les transformations locales, ça ne peut probablement pas se faire pour tous les produits, mais c'est clair que ça peut se faire. À Rouyn-Noranda, je prends un exemple, on a une fonderie de cuivre. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas une usine de fabrication de fils de cuivre. Je pense que transporter un wagon de train plein d'anodes de cuivre, ça ne doit pas coûter plus cher que de transporter plein de fils de cuivre. Et pourtant, les fils sont fabriqués à Laval, si ma mémoire est bonne. Et pour faire tout ça, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de l'argent. Donc, il faut un régime où on va chercher les redevances comme on devrait. Merci, Miigwech, Tinashe Kometen.